Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Salut! Et ce soir, on veut vous parler des cabanes à sucre parce que c'est enfin le temps de manger de la tire d'érable. Donc, on vous a trouvé, là, dans le fond, des places qui offrent des repas végétariens et ou végétaliens, ainsi que des petites statistiques là, sur l'empreinte écologique des érablières. Donc, Maria, je te laisse commencer sur le sujet.
Oui, donc comme tu le dis, le temps des sucres est enfin arrivé. C'est un beau moment de l'année, mais personnellement, depuis que je suis végane, j'ai vraiment de la difficulté autour de cette période-là de trouver des options qui vont s'accommoder. Et cette année, on a des bonnes nouvelles parce qu'il y a de plus en plus d'érablières qui sont conscientes de la demande et qui mettent en place une offre pour venir répondre aux intérêts végétariens, dont une à Sherbrooke. Et l'érablière Érabilis, qui est située là, pas très loin de l'université en plus. Et cette année, selon un article paru sur le site 1.5, il y a 9 des 12 plats qui sont végés.
Ah, donc, c'est bon ça!
Oui, chaque année, l'érablière change son menu, mais cette année, il y a vraiment eu
une demande.
Une demande, là. Donc, on aura par exemple au menu des casseroles de légumes marinés glacés à l'érable, du tofu en cube, des sédamames grillés. Donc, ça promet d'être vraiment bon.
Et par végé, est-ce qu'on entend végétalien ou c'est un mélange de végétarien et végétalien?
Ça, c'est une bonne question, Daphné. J'ai l'impression que ça va être quand même assez végétalien.
Okay.
Parce que pour tout ce qui est casserole de légumes, mm-hmm. le tofu en cube, d'habitude, on n'inclut pas de produits laitiers là-dedans. Mais c'est sûr que pour les personnes qui sont végétaliennes, on va devoir s'assurer quels produits sont adaptés à notre régime.
Oui, en fait, puis je trouve ça super intéressant parce que, comme tu dis, je trouve ça un peu difficile en tant que végé d'aller dans des cabanes à sucre. Moi, ça fait des années que je n'y vais plus parce que, à part manger de la tire d'érable, pour nous, on n'a pas grande option quand on est végétalien, pardon. Et puis, cette année, c'est sold out l'événement, mais il y a aussi le restaurant Sauge. Restaurant végétalien à Sherbrooke qui va faire et a fait, en fait, là, des fins de semaine de cabane à sucre vegan. C'est 5 services. Ils ont fait ça la semaine passée ou il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et puis, ça avait super bien fonctionné. Et puis, ils refont une fin de semaine le cabane à sucre vegan cette fin de semaine aussi. Donc, je vais vous redonner des nouvelles. Là. J'y vais justement en fin de semaine là, essayer de goûter à ce menu 5 services. Mais à voir les photos, ça a l'air vraiment bon.
Oh, ça a l'air incroyable. Vraiment, tu nous donneras des nouvelles. Puis c'est beau à voir parce qu'on a un souci de réinventer les traditions. La cabane à sucre, mm-hmm. c'est très ancré dans la culture québécoise, j'ai l'impression. Tu pourras m'en parler plus parce que moi, je ne suis pas québécoise oui. d'origine.
Oui, non, c'est ça. Vous ne le voyez pas, c'est ça. Mais Marianne n'est pas d'ici. Mais par contre, je pense que toi aussi, tu as fini par le savoir que la cabane à sucre, c'était vraiment important pour les Québécois et les Québécoises. Avec raison, parce que c'est super bon. Puis je parle, t'sais, l'érable, c'est un de nos grands moyens de récolter de l'argent au Québec et au Canada. Donc, c'est sûr que c'est important pour nous. Mais il y a aussi, en fait, là, des cabanes à sucre qu'on a trouvées ailleurs au Québec, si vous n'êtes pas nécessairement là, dans le coin de Sherbrooke pour cette période-là. Mariette, en avais trouvé une dans les Laurentides, hein? Cabane as-tu eu?
Oui, en fait, en faisant des recherches, j'ai vraiment vu qu'il y a une seule cabane à sucre qui est complètement végétalienne et zéro déchet. Je pense que c'est la cabane à tuque. Dans les Laurentides. Donc, ça a l'air d'un super bel endroit avec un menu qui est végétalien, biologique, vraiment. Donc, pour les personnes qui sont dans le coin, là, évidemment, on va privilégier les cabanes qui sont locales mm-hmm. dans un souci environnemental dont on vous parlera dans quelques instants aussi.
Oui, et il y a aussi l'érablière au Palais Sucré qui est au Mont-Saint-Grégoire, qui est en Montérégie. Pour quelqu'un comme moi, en fait, qui vient de la Montérégie, c'est sûr que c'est le fun à savoir. Et qu'est-ce que j'aime de cette cabane à sucre-là, c'est qu'il offre les 3 menus. Fait que dans le fond, omnivore, végétarien et végétalien. J'aime vraiment beaucoup cette alternative parce que c'est vraiment inclusif. Mm-hmm. Donc, quelqu'un comme moi qui ne consomme pas de produits animaliers, mais qui est la seule dans ma famille, au moins, je peux y aller avec mes parents. Eux autres peuvent manger leur viande. Et puis, moi, je peux manger là, soit végétarien ou végétalien. Enfin, je trouve ça le fun que ce soit vraiment inclusif. Et c'est pas un certain nombre de repas, par exemple, comme celle qu'on a parlé à Sherbrooke. Tu sais, c'est vraiment... Il y a 3 menus différents.
OK, ça, c'est génial.
Oui, vraiment, il faut leur mentionner, mais ils font vraiment 3 menus complètement différents là, selon notre alimentation. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et il y a aussi la cabane à sucre Enfield à Saint-Marc-sur-Richelieu, qui n'est pas super loin d'ici, je pense que c'est une heure et demie, qui offre des menus là, végétariens et végétaliens aussi sur demande. Donc, on peut voir qu'il y a de plus en plus de cabanes à sucre qui s'adaptent à ce régime alimentaire.
Oui, absolument. Il y a aussi des listes qui sont publiées. Là. Le site 1.5, notamment, il y a un article qui en mentionne d'autres. Et je mentionnerais aussi que si dans votre cabane à sucre locale, il n'y a pas encore ces options-là, n'hésitez pas à le demander oui. parce que c'est comme ça qu'on va créer de la demande auprès des restaurants, mais aussi des cabanes à sucre, de juste demander avez-vous une option végétarienne, végétalienne. Et dans les prochaines années, ça va faire le chemin et je pense qu'on va arriver à avoir des options dans toutes les cabanes à sucre au Québec, on l'espère.
Bien, je pense aussi, et puis c'est quelque chose de très correct aussi de juste faire part à la personne responsable qui est là sur les lieux, que ça pourrait être intéressant sans nécessairement faire un message moraliste ou peu importe, juste dire comme « Hey, avez-vous déjà pensé à faire ça? » Peut-être qu'ils l'ont pensé, mais qu'ils n'ont pas encore eu le temps de le faire ou peut-être que c'est sur la table ou peu importe. Mais pour eux, de voir que la demande est là et qu'elle est grandissante, bien, eux, ça va leur donner encore plus le goût, si je peux dire ça comme ça, d'élaborer un menu là, VG dans leur cabane à sucre.
Exactement. Et tu mentionnais tantôt que tu es pu retourner à la cabane à sucre. Moi non plus, beaucoup, en fait, parce que la dernière fois que j'y allais, j'avais juste mangé des petits trucs sur le côté, puis c'est
des petites patates de la petite sœur,
ouais. Donc ça va ramener de la nouvelle clientèle. Là. Souvent, quand on est végé-végane et qu'il y a des options, on veut les essayer, puis on va pousser les gens à les essayer aussi.
Surtout quand c'est quelque chose qu'on aimait, quand on était omnivore. Là, c'est sûr que si on a l'option de le manger végé, on va y aller là, tout de suite. Mais c'est sûr qu'en même temps, le prix des cabanes à sucre a tellement augmenté qu'on ne sera pas porté à y aller si c'est juste pour manger de la terre là, au prix que c'est. Fait que ça aussi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui s'en vient puis que c'est vraiment intéressant. Là, on va suivre le développement puis on va vous en faire part si on en trouve d'autres dans la région. Aussi, en fait, on voulait vous parler de l'impact environnemental de tout ce qui touche à l'érable. En fait... Pour ce qui est là, du sirop d'érable en tant que tel, là, ça l'a vraiment... En tout cas, Maria et moi, on trouvait qu'il y avait peut-être un petit problème au côté du niveau de l'empreinte écologique. Pardon. Si on regarde, par exemple, là, une étude par les producteurs et productrices acéricoles du Québec, on démontre que chaque livre de sirop d'érable génère 478 grammes de CO2. Ça veut dire que, si on le met en exemple, la production annuelle de sirop d'érable au Québec équivaut aux émissions de CO2 de 9 500 VUS qui parcourent chacun 20 000 kilomètres ou 290 000 plus petits autos, ce qui équivaut à 9 % du parc immobilier. Donc, Maria et moi, on trouvait que c'était quand même beaucoup parce que, bon, 9 500 VUS qui parcourent chacun 20 000 kilomètres, c'est quand même énorme. Par contre, on a aussi soulevé un problème éthique, si je peux dire ça comme ça. Ça dépend vraiment de la perspective des personnes. Moi, j'ai eu, en fait, cette... statistiques-là sur le site érablière-du-québec.ca et eux autres trouvaient que c'était vraiment pas beaucoup, l'équivalent de 9% du parc immobilier. Donc, j'imagine que ça dépend vraiment là, de nos perceptions, surtout quand on pense qu'on a 34 millions d'érables au Québec. Fait que, bon, 9 500 VUS sur 34 millions d'érables, on peut peut-être le voir un petit peu de positif là-dedans. Là.
Oui, vraiment. Non, c'est une grande industrie. Il y a aussi la consommation d'eau. Ça prend en moyenne 40 litres d'eau d'érable pour obtenir un litre de sirop. Donc, c'est beaucoup quand même. Mais ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est de comparer ça au sucre. Parce que souvent, on va cuisiner avec du sucre blanc raffiné qui vient de productions là, qui ne sont pas locales et qui a un impact très grand sur l'environnement. C'est là une étude du World Wildlife Fund. Le sucre C'est vraiment l'une des cultures les plus nocives sur la planète parce qu'il y a l'utilisation intensive d'eau, de pesticides, et ça amène à avoir des fortes érosions des sols. Donc, c'est vraiment endommageable pour l'environnement autour, mm-hmm. alors que les érables, c'est beaucoup plus fait dans le respect, l'extraction de l'eau d'érable pour en faire du sirop. Et on encourage, bien sûr, l'économie locale avec les sirops d'érable. Donc, on voulait vous mentionner ces statistiques-là pour que vous en soyez consciente. Mais vraiment, on trouve que quand même, quand on s'intéresse aux autres options, ça reste super et c'est tellement bon du sirop.
Là. Oui, c'est ça. C'est meilleur, en fait. Là. Ben, c'est sûr que du point de vue environnemental, ça reste que le sirop d'érable est quand même mieux côté pour son empreinte écologique. C'est aussi meilleur pour notre santé. Et personnellement, je préfère prendre une cuillère de sirop d'érable qu'une cuillère de sucre blanc.
Je suis tellement d'accord avec toi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a parlé que oui, il peut y avoir un problème, mais c'est qu'il y a un souci grandissant chez mm-hmm. les producteurs oui. d'érable pour être plus éco-responsables. Et il y a l'organisme EcoCert Canada qui est engagé dans l'agriculture biologique et qui a maintenant proposé une certification de sirop carbone neutre.
OK.
Donc, plusieurs érablières là, vont aller chercher ça pour assurer des bonnes pratiques, par exemple en compensation d'émissions de GES à toutes les étapes de l'élaboration du produit. Donc, avec cette certification-là, on va vraiment pouvoir aussi augmenter la demande pour du sirop plus éco-responsable puis pour l'amélioration des pratiques. Donc, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris récemment et je vais certainement voir quels sirops sont certifiés carbone neutre.
Oui, puis notre société s'en va là de toute façon vers des moyens plus éco-responsables. Donc, je suis même pas inquiète que si ces sirops d'érable-là fonctionnent bien, se vendent bien et sont bon goût, éventuellement, les gens vont de plus en plus adapter ce genre de pratiques-là à ce que je pense. Et il y avait aussi une bonne nouvelle que j'ai dit, là, en fait, une bonne statistique que je trouvais, c'est que les érablières du Québec en activité, ils vont capter et stocker 8 fois plus de carbone que leur procédé de production n'en émette.
Mm-hmm.
Donc, au final, l'érablière va coûter là, du côté CO2, ils vont en émettre. Sa production de sirop d'érable va émettre du CO2, mais l'arbre, l'érablière, va en stocker 8 fois plus de ce qu'elle en émet. Donc, au final, je pense que c'est quand même des bons arbres là, côté environnement.
C'est ça, c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans les arbres, dans leur processus qui vont aussi contribuer à l'environnement. Donc, même si le fait d'extraire l'eau d'érable pour en faire des produits qu'on consomme peut avoir des effets sur l'environnement, mais la production en tant que telle est quand même bénéfique là, d'un autre côté.
Oui, 100%. Et encore une fois, ça vient de érableduquebec.ca. Il disait justement qu'en choisissant les produits d'érable, on contribuait à préserver ces érablières-là, à faire en sorte qu'on conserve ceux qui sont là et qu'on en plante de plus en plus, ce qui est bon pour notre planète. Là. Plus on a d'arbres, mieux c'est, peu importe quel type d'arbre c'est. Et ça sert aussi à augmenter la superficie de forêt naturelle. Fait que plus concrètement, il disait que si chaque jour pendant un an, au lieu de mettre une cuillerée à thé de sucre blanc dans notre café, on mettait une cuillerée de sirop d'érable, on pourrait à nous seuls protéger 2 érables.
Oui,
c'est gros un érable. Fait qu'on pourrait en un an seulement mettre une cuillerée à thé de sirop d'érable, protéger 2 érables. Fait que je trouve ça vraiment intéressant à savoir là.
C'est super, là. Puis en plus, on encourage les pratiques plus éco-responsables. Là. On a vraiment une belle production québécoise là, dont on peut être fier et fière.
Vraiment. Et sur ça, on a fait des idées de recettes de cabane à sucre, là, VG vegan.
Et tout ça, ça va être disponible dans les prochains jours, semaines, sur nos pages médias sociaux. Oui. Mais on voulait quand même vous en partager quelques-unes. Donc, pour un menu là, qui serait style cabane à sucre. On vous proposerait la soupe aux pois de la cuisine de Jean-Philippe. Ricardo, il nous propose aussi un fèvre sans lard au sirop d'érable.
Bon,
donc, vraiment, ça doit être délicieux. Où on a pensé aussi, là, ça, c'est toutes des gens de notre comité, comme Rosalie, Laurie Jeanne, qui ont apporté des idées, là, je tiens à le dire. Mais par exemple, de faire du tofu brouillé, donc un peu style omelette, mais vraiment avec du tofu puis du curcuma et rajouter du sirop d'érable. Ouais. C'est super bon. Moi, j'aime beaucoup faire ça pour les brunchs les dimanches
matin. C'est super bon.
Oui. Vraiment. Donc, si vous ne savez pas essayer, c'est une superbe idée. Il y a aussi la tourtière de millet de la cuisine de Jean-Philippe. Ça, notre collègue Roxane adore cette recette.
Grande fan.
Oui, grande fan. Et sinon, plus côté dessert, Jean-Philippe nous propose une tarte au sirop d'érable. Donc, tout ça, c'est disponible sur son site de la cuisine de Jean-Philippe. Sinon, 3 fois par jour, un pudding chômeur végétalien. Là. Donc, les options sont nombreuses.
C'est ça, les options sont là. Et puis, on peut très facilement, aujourd'hui, en tout cas, là, se faire un bon menu de cabane à sucre, toutefois végétalien.
Oui.
Fait que sur ça, on va aller en pause. On s'en va en musique avec Émile Bilodeau et sa chanson « Petite nature » et on vous revient dans quelques instants.
Quand je regarde dehors le temps de marde qui fait encore une victime collatérale, je check un film, c'est pas normal. J'avais envie de faire du sport, puis je m'étais dit que j'étais pas mort. C'est-tu mon manque d'effort qui fait que ça y tente pas fort fort? Le beau temps n'est pas tant. C'est un important, puis on danse pas bon dans. Moi j'ai chanté toute l'année, Here Comes the Sun. Puis on m'a dit que tu serais ici en même temps que les pommes. Belle journée, viens éclairer ces milliards de personnes qui ont besoin de toi, et pas trop tard, allez, commence. Puis se gratte les fesses toute la journée à dealer avec la solitude comme d'habitude. On peut être sûr qu'on n'est pas maître de la nature, même si un arbre c'est vulnérable devant vos bulldozers de marbre. Les animaux, les végétaux, puis les cours d'eau nous ont écrit un mot sur nos réseaux sociaux. Puis en gros ça dit fuck you, esti. Le beau temps n'est pas content. Ça fait 100 ans qu'on fuck ses enfants. Le beau temps est un sacrement. Pis on danse pas bon. Moi j'ai chanté toute l'année Here Comes the Sun. Puis on m'a dit que tu serais ici en même temps que les pommes. Belle journée, viens éclairer ces milliards de personnes qui ont besoin de toi, et pas trop tard, allez, commence. Je m'en toi.
Bon retour de pause. C'est ce qui conclut en fait là, notre segment sur les cabanes à sucre. Pour l'instant, on vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux puisqu'on va publier là, justement là, les conseils de recettes qu'on vous a donnés et on va en parler plus en détail un peu. Et sur ce, Maria et moi, on voulait enchaîner sur les initiatives inspirantes ou les personnes inspirantes qui sont proches de nous. Et qui, en fait, c'est ça, qui sont juste, qui font des bons mouvements là, pour l'environnement.
Oui, absolument. Donc, il y a plein de belles initiatives au Québec là, qui se déploient pour promouvoir davantage une alimentation végétarienne, végétalienne. Je voulais d'abord mentionner, là, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le Festival Vegan de Montréal, qui est un bel événement. Là. Mm-hmm. Moi, c'était un moment marquant là, dans mon parcours quand j'étais allée. Et je pense que cette année, ça revient en présentiel après 200 pandémies cet automne à Montréal. Là. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, de faire du covoiturage pour y aller aussi, on vous encourage vraiment. Je ne sais pas, Daphné, est-ce que tu étais déjà allée, toi?
Non, je n'ai jamais été, mais j'ai tellement vu de photos, de commentaires, d'articles sur ça qu'en fait, ça ne s'avait juste pas donné là, avant la COVID. Ça faisait aussi, avant la COVID, je pense, comme deux ans que j'étais végétarienne, donc ça ne faisait pas si longtemps. Mais cette année, si c'est en présentiel, c'est sûr que je vais y aller. Là.
Mais ce qui est super intéressant, c'est vraiment, on va aller chercher les personnes qui sont très, très inspirantes au Québec, qui ont beaucoup de connaissances et de trucs à nous donner. Et il y a des grandes conférences, mais il y a aussi des plus petits ateliers où les gens peuvent poser leurs questions, puis s'entraider, se donner des conseils. Et habituellement, tu vas avoir aussi un côté plus entreprise, commanditaire, qui font essayer les produits vegan. Moi, par exemple, j'étais allée en 2018. C'est la première fois que j'ai goûté à des saucisses Gusta, oui, ou au fromage Gusta.
C'est tellement bon.
C'est beau à découvrir, ça fait... aussi une opportunité d'encourager les entreprises locales.
Oui, et c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous et à toutes, pas seulement à ceux et celles qui sont végés, parce que justement, c'est l'occasion de poser des questions à des personnes que ça fait longtemps qui sont dans le milieu, de voir c'est quoi leur réalité, justement, avec les conférenciers, les conférencières, d'en prendre plus sur ce mode de vie-là, et justement, de nous permettre que si à la maison, on ne veut pas aller à l'épicerie et acheter des produits végé, parce que ça peut coûter quand même cher, bien là, au moins, on peut y goûter et savoir si on en veut dans notre épicerie ou pas au final.
Mm-hmm. Et quand tu deviens végane, végétarien, souvent, tu es un peu marginal. Mais quand tu arrives à cet événement-là et tu vois l'énergie et la quantité de gens qui s'intéressent à cette même alimentation que toi, c'est indescriptible ce que tu ressens vraiment.
Oui, on se sent à la maison un peu. Là.
Oui, exactement. Tu es comme, oh mon Dieu, je me sens comme dans une société qui me ressemble plus tout d'un coup. Dans un microcosme. Là,
une petite famille.
Une petite famille. Donc, voilà. Puis sinon, un autre festival qui s'aligne beaucoup avec nos valeurs. Mais moi, j'ai jamais été personnellement, mais Camélia de notre comité nous en a parlé, le festival Zéro Déchet à Montréal également. Là, je pense que c'est un peu dans le même esprit de s'inspirer à avoir des habitudes qui sont moins nocives pour l'environnement, finalement.
Ça, c'est intéressant. En fait, là, je viens d'apprendre en même temps que toi un peu là, que ce festival-là existait. Par contre, je trouve que c'est tout à leur honneur de faire un festival zéro déchet et que ce serait justement là, le genre d'activité sur laquelle on devrait plus se pencher.
Ah oh oui, absolument. Et parlant d'événements, on voulait aussi glisser un petit mot là, sur l'organisation d'événements. Comment est-ce qu'on peut les rendre plus éco-responsables, plus végé? Est-ce que si on est dans le milieu où on est amené à organiser un événement, on peut développer cette sensibilité-là? C'est quoi les enjeux, Daphné? Est-ce que tu as des réflexions par rapport à ça?
Ben oui, évidemment, dans le sens ou ce que je pense que n'importe quel événement peut s'adapter en fonction des organisateurs, organisatrices. Et donc, il y a une façon de rendre l'événement soit plus éco-responsable en termes de déchets ou plus végétal. Je pense, en fait, de juste en parler. Les commanditaires sont là, les traiteurs sont là. À cette heure, je trouve que notre milieu s'en vient de plus en plus varié. Donc, je pense que n'importe quel événement là, peut être adapté de manière plus éco-responsable.
Oui, vraiment. Là, juste pour donner un exemple, la fin de semaine qui vient de passer, il y avait à l'université l'événement, le forum J'ose transformer, qui réunissait des jeunes, mais aussi des artistes, des politiciens pour réfléchir à des enjeux de société. Et parmi le menu, le dîner, par exemple, qui était complètement vegan, et dans des plats compostables qui vont être compostés ici même à l'université. Wow. Et c'est un traiteur à Waterville qui avait fourni le tout, Rituel G. Il y a aussi des traiteurs qui offrent des options végé-véganes à Sherbrooke et bien sûr dans les autres villes du Québec. Là, donc, on vous encourage vraiment, si vous êtes dans le monde événementiel, de près ou de loin, à réfléchir à tout ça.
C'est ça. Je pense que les traiteurs locaux, surtout, ils ont presque tout un menu végé. En tout cas, à ce que moi j'ai regardé, là, ils en ont presque un. Fait que c'est facile d'appeler et de dire, par exemple, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un menu soit complètement végétal ou d'avoir un menu pour tous. Là, donc, omnivore, végétarien, végétalien. C'est très faisable. La demande est là. Et la plupart du temps, là, c'est rare que j'ai eu un non en appelant un traiteur.
Et souvent, si tu offres de la nourriture végétarienne, végétalienne aux gens, ils vont pas être fâchés parce qu'ils manquent de la viande, là. Surtout si c'est pour le temps d'un dîner. Au contraire, ça va les faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles cités. Et s'ils ont envie de manger de la viande, ils pourront y retourner après. Mais c'est pas comme si on était exclusif, je trouve. Mais c'est peut-être juste ma perspective.
Non, je trouve pas non plus. Et je trouve pas ça... Aussi, je trouve que ça a sa place. Par exemple, dans le contexte « J'ose transformer », le but, en fait, c'est d'innover notre société, d'innover notre région. Et donc, je pense aussi que ça passe par faire plus attention à notre mode d'alimentation. Et donc, j'aurais trouvé ça un peu étrange d'être dans un événement qui se veut éco-responsable, un peu d'une sorte, et manger... je sais pas, la pire viande au monde avec des gros T-bones. J'aurais trouvé ça vraiment étrange. Donc, je pense aussi que quand une personne va à ce type d'événement, elle doit s'attendre aussi à d'autres types là, d'alimentation, de personnes, etc. Là.
Vraiment. Et j'ai trouvé intéressant, là, récemment, j'ai découvert que l'Association végétarienne de Montréal a mis en place la certification Végé engagée pour des entreprises, des OBNL. Il y a le GRAM à Montréal qui est le premier OBNL certifié, dont le groupe de recommandation et d'action pour un meilleur environnement. Et cette certification-là, niveau bronze qu'ils ont eu, par exemple, ça engage à servir uniquement de la nourriture végétalienne dans les événements institutionnels, à offrir un point de chute pour les boîtes de fruits et légumes, à organiser des conférences sur l'alimentation végétalienne et aussi à en parler sur les médias sociaux pour favoriser ce type d'alimentation. Donc, je trouvais ça super inspirant comme initiative.
Oui, et pour des gens comme toi et moi qui veulent un peu impacter notre société de manière positive, bien, c'est le fun de savoir aussi qu'il y a des récompenses, que la société remarque qu'il y a des entreprises ou des personnes qui font des efforts considérables pour améliorer la société. Et en fait, sur ce même point-là, il y a aussi, j'ai appris ça ce matin d'ailleurs, il y a le prix Les Vivants. En fait, j'ai appris ça, là, vous pouvez aller voir sur le site de l'Auto-Québec. Je pense en fait que c'est eux qui l'organisent, là, ces prix-là et ce gala-là. Mais en fait, c'est pour récompenser les événements éco-responsables. Donc, à ce que j'ai vu, là, il y en avait plein, que c'était soit bon ceux qui avaient apporté les trois bacs, là, compostage, recyclage et déchets. Il y en a que c'était pour le développement durable. Bref, ça a l'air d'être un gros gala, malgré tout, même si on n'en parle pas. Et puis, ça récompense là, justement plein d'entreprises ou des personnes qui ont aidé à changer les choses. Donc, en même temps, je trouve que ça nous permet à nous de les connaître et probablement aussi d'acheter leurs produits, là.
Oui, vraiment. Et parlant d'événements responsables d'avenir, on ne peut pas passer à côté de FEV, l'organisme qui s'appelle Festival Événements Verts de l'Estrie. Et c'est vraiment un organisme qui est là pour aider à la gestion des matières résiduelles et à la sensibilisation pendant l'événement. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas encore, là, c'est un organisme à découvrir.
C'est à aller voir. Sur ce, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On a tellement d'entreprises ou de personnes inspirantes ou d'événements qu'on pourrait vous parler. C'est sûr qu'on va vous en reparler éventuellement. Sur ce, on vous souhaite une super belle semaine et à la prochaine.
À la prochaine!